Je n'écris pas dans ma langue maternelle. Le français n'est pas ma langue maternelle. Je ne parle ni ne comprends le télégou, la langue de ma mère. Et le créole, qui est ma langue maternelle, n'est pas ma première langue d'écriture. Je ne voulais pas me relancer dans l'éternelle rengaine à propos de la langue maternelle. Je suis fatiguée de ce besoin de me disculper en permanence comme d'un crime, de me trouver des alibis alors qu'il n'y en a pas, de négocier ma présence en écriture de langue française. Et encore, quand je dis disculper, quand je dis alibi, c'est le plus souvent face à moi-même, car les questions des journalistes ou des critiques à ce propos ne m'importent pas vraiment. Mais je sais que lorsque j'aborde cette question de front, quelque chose me retient, m'angoisse. Je sais que mes yeux évitent ce miroir-là, que le malaise est là, perceptible. Français, créole, télégou, toutes ces langues sont des ombres qui me narguent, des lumières qui m'éludent. Aucune ne m'appartient en propre. J'ouvre la bouche et je sais que ma véritable langue, c'est le silence. Ananda Devi, ma vie avec Joséphin, dans L'inconscient et les langues.
Canne à sucre et préjugés.
Ce texte d'Ananda Devi m'a beaucoup touchée, parce qu'il me semble qu'à Maurice, nous sommes en permanence dans ce paradoxe. Nous ne parlons ou n'écrivons jamais dans la bonne langue, celle qui nous rendrait pleinement légitimes, celle qui nous appartient entièrement, celle qui nous permettrait de nous exprimer et de manœuvrer avec aisance dans ce pays multilingue qui est le nôtre. Nous vivons tous à un moment ce malaise, celui de ne pas maîtriser parfaitement, voire pas du tout, une des langues en présence dans notre pays. Chacun de nous doit vivre avec cette absence, ce manque de langue. Et nous devons sans cesse composer avec le regard de l'autre, ce regard inquisiteur qui vous dit que vous n'avez pas utilisé la langue qui convient ou que vous ne l'avez pas utilisée correctement. Je m'arrête dans la rue pour demander mon chemin. Mon instinct me dicte de m'adresser à mon concitoyen en créole, puisque je parle aussi le créole. Mais le monsieur en face me répond en français. Et je comprends que cette langue ne convient pas à la couleur de ma peau. Une autre fois, m'adressant cette fois en français à un ami artiste qui, je le sais, maîtrise parfaitement cette langue, je me suis vue répondre en créole parce que la langue est marqueur de notre identité mauricienne et que se parler en français est vécu presque comme une offense à cette identité. Je ne suis pas une bonne mauricienne si je ne parle pas le créole. Et nous ne parlons là que du français et du créole. Il y aurait encore sans aucun doute de nombreuses anecdotes à raconter sur l'anglais. Le hindi, le bhojpuri, le marathi, l'ourdou, le télégou. Bref, la diversité des langues à Maurice est impressionnante et la place qu'occupe chacune d'elles dans notre paysage linguistique éclaire notre société, ses composantes, ses failles, ses problématiques identitaires. Dans son livre « L'île Maurice des langues et des lois », le professeur Arnaud Carpouran écrit « D'où vient cette place démesurément importante qu'occupe l'ethnicité dans toute question relative aux langues à Maurice, et cette impression qu'il existe un lien inévitable entre l'évocation des droits linguistiques et la question d'appartenance ethnique? Pour répondre à cette interrogation, il faut remonter dans l'histoire de Maurice et les politiques de langue adoptées au cours de celle-ci. Mon enquête m'amène d'abord à échanger autour de moi, dans mon entourage proche, notamment avec mes collègues au travail, puisque nous n'avons pas tous la même langue maternelle et que leurs avis me donnent à réfléchir. Je travaille avec Doriane Létourdi depuis 2 ans maintenant. Nous sommes assises côte à côte tous les jours. Nous nous parlons en français depuis le début de notre collaboration. Une langue qu'elle maîtrise parfaitement et qu'elle semble avoir fait sienne, même si je sais que sa langue maternelle est le créole. Lorsque je lui pose la question de son rapport aux langues, je reste ébahie par la franchise et le tranchant de sa réponse.
Anglais en avant, parce que normalement, tout facture que nous recevons, tout démarche qu'il nous fait, lit en anglais. En fait, avant, mon participe comprend qu'il fait, après, mon comprend, c'est anglais, comme si pour moi, il est plus fort. C'est une langue vraiment, il est plus fort. Donc, là, après second, il vient français. Et après, au dernier, il vient créole. Ben, comment me dire, moi, me trouve, comment moi, la peau noire, c'est-à-dire, créole, nous en bas, ben là, j'ai de la peau blanche, j'ai de la haut. C'est comme si ça qui m'en apprend depuis petit, m'en apprend ni comme ça, m'en connaît ni comme ça. Plus important, par exemple, je vais donner un exemple. Si jamais moi, personnellement, j'ai une démarche pour faire, et si me téléphoner pour dire que je suis mon madame intel, etc., mon vie telle démarche, tel détail, ou je sais pas quoi, m'en remarquer moi, si mon cause créole, il prend beaucoup de temps, ou soit, ben là, capable de dire moi au bout du fil, je pourrais appeler moi après, etc. Mais si mon cause français, parce que la personne au bout du fil, je ne parle pas de moi, je t'en dis pour la voix. Mon remarque, ça plusieurs fois, si mon cause français, je plie de moi dans le détail qui est important, comme si je plie pour moi compte, là. Et ce qu'elles ont dit, comme on a des mots, pour faire au téléphone, mon cause français, direct même. Et mon démarche fait plus vite, mon détail fait, je te rappelle moi. Nous bizarre apprendre français et anglais dans l'école, mon apprendre lit. Et les parties en pratique du tout, parce qu'avant, je travaillais dans l'école française. Mais maintenant que je travaille dans l'école française, donc tous les jours, je cause français. L'anglais, comme si à partir d'une qualité d'immune, surtout ban blanc. Parce que c'est autre langue, ça.
Mes échanges avec Dorian me permettent de comprendre que quoi que je fasse, que je la maîtrise ou pas, la langue créole, dans l'imaginaire d'une bonne partie des Mauriciens, n'est pas ma langue. La langue aurait-elle donc une couleur? Je comprends grâce à cet échange très ouvert à quel point la langue est marqueur d'identité ethnique à Maurice. Même si Dorian maîtrise parfaitement le français, qu'elle semble se l'être appropriée, ce n'est pas sa langue, selon ses propres paroles. Elle le dit avec aplomb. Pour elle, le créole est la langue des Noirs, le français, la langue des Blancs. C'est ce qu'elle a appris. J'ai donc voulu comprendre ce qui se joue dans un discours aussi catégorique. J'ai voulu savoir comment et pourquoi ce que nous devrions voir comme une immense richesse, une possibilité d'ouverture à d'autres mondes, est encore une fois source de séparation, voire de ségrégation. Pour répondre à mes interrogations sur le sujet, je rencontre le professeur Arnaud Carpouran, doyen de la faculté de Social Sciences and Humanities à l'Université de Maurice. Aliya et moi, nous perdons dans les couloirs de l'Université de Maurice, pour arriver enfin dans le joli jardin ensoleillé de la faculté de sciences sociales. Arnaud Carpouran nous conduit dans son bureau. Moquette, lourd rideau tiré, un cadre idéal pour enregistrer. Auteur du livre « L'île Maurice des langues et des lois », dans lequel il apporte un éclairage sur les différentes politiques de langue à Maurice depuis la colonie, Arnaud Carpouran prend le temps de répondre à mes questions et de m'éclairer dans un premier temps sur les paroles de Dorian.
Je comprends derrière cette phrase qu'on parle beaucoup plus de hiérarchisation sociale plutôt que de couleur de peau. Et que la hiérarchisation des langues, en réalité, c'est une hiérarchisation de positionnement socio-économique qui, dans notre pays, est associée souvent à ce que j'appelle une logique de pigmentocratie. Plus on est blanc, plus on est haut placé dans la structure sociale. Et donc, la question ethnique à Maurice, en vérité, cache la stratification sociale, ce qui fait que, à beaucoup d'égards, à Maurice, on devrait plutôt parler d'ethnoclasse plutôt que d'ethnicité, qui est très réducteur, puisque à certaines catégorisations ethniques est associé de manière très étroite un positionnement socio-économique. Donc, dire que c'est la langue des Blancs, moi, ce que j'entends, c'est la langue des puissants, de ceux qui ont le pouvoir économique, de ceux qui incarnent la réussite sociale, de ceux qui incarnent les gens qui appartiennent à des strates sociales les plus élevées, et noir, c'est en dessous. Donc, nous sommes en train de parler d'une stratification sociale dans un pays qui est aussi multiconfessionnel, multiculturel, multilingue, et on a souvent tendance à réduire à une seule catégorie, la différenciation, alors qu'elle est beaucoup plus complexe que cela. Et c'est notre héritage, le fait d'avoir été colonisé par des puissances coloniales européennes, associées donc à une couleur de peau spécifique, et les peuples colonisés, réduits en esclavage ou indentured, ils sont engagés, n'appartiennent pas à ce même ensemble phénotypique. Et donc, à cette stratification à laquelle on associe la pigmentation, il y a tout ça qui revient. nous ne sommes pas sortis complètement de notre héritage colonial. Donc, tout ce qui connote européen, occidental, tout ce qui est culture française, anglaise ou tout le reste, ça sera forcément obligatoirement bon, bien. Même si on sait qu'il y a du mauvais aussi, mais on intériorise cela. Tout ce qui est nous, local, tout ce qui est produit ici, par les non-occidentaux, non-blancs, même si c'est bien, ça ne peut jamais être aussi bien que l'autre. Il y a toujours un petit truc à améliorer. Le français, je parle français, oui, mais c'est un français mauricien. Ce n'est pas un français français. Ça veut dire que... Et même quand on dit français mauricien, oui, mais ce n'est pas le français des Blancs. C'est un français mauricien. Et entendons, quand on dit français mauricien, il y a différentes strates de variétés de français mauricien. Et là encore, on retrouvera la hiérarchisation, le français des Blancs, puis le français des gens de couleur. Puis on va descendre, et puis il y aura un français qui est... moins légitime, moins reconnu. Et ça va s'accompagner de cette logique de pigmentocratie ici. Alors même qu'on va comparer le français des Blancs ici au français des Français et qu'on aura un regard un peu particulier. Ouais, mais le français des Blancs, c'est pas exactement. Mais en même temps, comparé aux autres Français ici, c'est quand même un autre Français. Parce qu'il est légitime. Parce que c'est la langue native de certaines catégories. Et il y a tout un travail à faire de décolonisation du mental. Et la décolonisation politique, elle est facile. C'est un acte. La décolonisation de l'esprit, de l'intérieur, ça, ça prend beaucoup plus de temps que ça.
Cette hiérarchie entre les langues et même entre les différentes manières de parler une même langue est très présente à Maurice. Et notre perception de l'autre change en fonction de la langue qu'il parle et de la manière dont il la parle. Lors de mes échanges avec ma collègue Chloé Edouard, celle-ci m'affirme « Dimoun bizarret gain honte cause créole ».
L'île Maurice catégorisée par rapport à la langue que tu parles, te cause créole, là, tu trouves toi une créole, mais alors qu'il même si tu es une... Bon, quand je dis créole, ne peux dire qu'une lapo noire, cause français, ben là, nous trouves toi dans le teuil. De différents. Là, tu montes en grade dans l'échelle sociale et nous pouvons faire ta spéculation, nous pouvons trouver toi différemment, nous pouvons dire peut-être « Ah, c'est une bonne bien éduquée. » Déjà, c'est une bonne chose, mais n'empêche que je t'allais encore plus loin. Je me disais « Ah, mais peut-être il y a une tacasse. Ah, il n'y a pas une créole comme on les autres créoles là. Qui cause ce créole, ça n'a l'éduqué, cause français, cause anglais. » Et là, se trouve toi d'une autre manière. Tu peux un tas, l'avantage. De peu importe que tu passes, qu'il y ait au niveau social, qu'il y ait au niveau professionnel, même personnel aussi, tu as plus d'avantages qu'il y ait un créole qui peut cause créole, parce qu'il y a nous pour toi différemment. Te dégrader, comment te cause créole, te dégrader. Comment te cause un français, encore si c'est bien parlé, l'anglais, mais il y a nous pour toi différemment.
Soleil qui sauf moléquer caresse moléco langage créole langage frissé dans la pile hiver quand Clotilde ou tordé langage créole langage la mer pareil ban vague qui continue beau temps, mauvais temps. Langage créole, langage divin. Ça même qui rase fait tôt quand éclaire et chlorase crasé. Langage créole, langage épice qui fit la langue et qui fait rappel vieille grammaire. Langage créole, langage rougaille, qui trouve ce beauté dans Ménance, qu'il a dans tout circonstance. Langage créole, langage piment, jamais pour connaître sa puissance, même s'il y a trop bien d'âme. Langage créole, langage coucou, ce délour rafraîchit l'écho, l'eau. rose carie arrose la pousse. Langage créole, langage révolte. L'ité pousse l'existence d'ibouté dans l'inité.
Vous venez d'entendre la voix de Daniela Bastien avec son morceau « Langage créole ». Daniela est une artiste issue de la classe ouvrière. Elle a une double formation de lettres et d'anthropologie à l'Université de La Réunion et enseigne les langues à temps partiel à la MCCI Business School. Elle a également travaillé au Mauritius Institute of Education en tant que formatrice pour les futurs enseignants du créole mauricien dans les écoles. En 2017, elle souhaite se rapprocher de la classe ouvrière et sera happiness manager dans une imprimerie. Cette expérience lui permettra de comprendre l'importance de la langue dans les stratégies de l'entreprise. Avec Mind On, boîte de consulting créée en 2020, elle anime des ateliers majoritairement en créole mauricien, auprès des ouvriers notamment. Son parcours la place comme une personne passerelle entre la classe ouvrière et le management de l'entreprise. Et la question de la langue est souvent au centre de sa pratique. Sa compréhension des problématiques liées aux langues à Maurice ont fait d'elle une collaboratrice privilégiée dans la réalisation de cette émission. Elle nous explique ici la notion de diglossie.
L'extrêmement intéressant, c'est que professeur Onokor pourra nous dire. Il explique de quelle manière colonisation française, administration britannique et ensuite une vague travailleurs engagés dans le 19e siècle, ça crée une situation spécifique pour Maurice. Et aujourd'hui, en fait, avec toutes ces histoires-là, nous avons un langage qui, en gros, est la guerre de place. Dans ce contexte qui nous appelle conflit linguistique, qui nous retrouve un terme qui, un linguiste, appelle diglossie. Qui était diglossie, ça veut dire qu'à chaque fois qu'il a le même territoire, il a plusieurs langages, et que là, il y a un langage qui, dans les celles plus bon à moins bon, dans les celles-là, il y a un langage qui plie là-haut, et un langage qui est en bas net. Dans le système mauricien, quand on peut cause diglossie, qui langage qui plie là-haut? Mais c'est anglais parce que, de facto, l'anglais est une langue officielle. Ça veut dire que nous pouvons servir dans la cour, nous pouvons servir dans l'administration, aussi nous médium l'enseignement. Après, nous avons français. Et plus en bas, nous avons créole mauricien. Là, entre sa langue haute, l'anglais là, et créole, nous avons tout un langage qui est dans Maurice. Donc, quand nous pécose diglossie, nous pécose aussi une intériorisation. Nous fin intérioriser qui, dans telle place ou telle place, nous pas capables cause créole. Ou nous pas capables cause anglais, ou nous pas capables cause français.
La diglossie est un concept sociolinguistique qui permet de comprendre comment c'est construite, et j'insiste sur le mot construit, une hiérarchie entre les langues à Maurice. La diglossie se construit donc au cours de l'histoire par l'apport des différentes populations et la hiérarchie entre ces populations, mais également et surtout à travers des choix politiques en matière de langue. Arnaud Carpouron raconte la genèse des conflits linguistiques dans notre jeune histoire mauricienne.
Avant l'arrivée des Anglais, il n'y a aucun conflit linguistique à Maurice. Les populations qui sont là sont d'origine française, les occupants, les colons, et puis d'origine africaine, indienne, malgache, et puis les autres aussi. De ceux qui venaient d'autres régions ou qui étaient de passage. Chacun fait ce qu'il veut. Et on n'a pas souvenir de querelles linguistiques. Il n'y avait pas de raison, puisque le blanc était le tout-puissant. La langue française était la langue dominante que personne n'ait questionné. Et comme les francophones mauriciens étaient en sécurité linguistique, ils pouvaient pratiquer toutes les autres langues sans problème. Il n'y avait aucune raison pour que la langue soit marqueur de quoi que ce soit. Quand les Britanniques débarquent, il y a l'article 8 de l'acte de capitulation, qui se lit ainsi, je crois, « Les habitants conserveront leur religion, loi et coutume ». Et dans « coutume », on va comprendre que ça signifie « langue » aussi. Et pendant 20 ans, et c'est assez étonnant, que de 1810 jusqu'à 1830, la langue de l'administration à Maurice est la langue française, pas britannique. En raison de cette interprétation juridique de l'article 8 de l'acte de capitulation, on continuera à fonctionner à Maurice en langue française pendant 20 ans après l'arrivée des Britanniques. Ce n'est qu'en 1831 où il y a un certain Lord Goderich, secrétaire d'État, qui commencera parce que entre 1810 et 1830, il y a toute une génération qui est passée, et les nouvelles générations qui sortent de la Grande-Bretagne pour venir ici ne sont pas à l'aise avec la situation d'avoir à travailler avec la langue française. Et il y a des revendications, nous sommes les occupants, pourquoi ? Et donc, progressivement, l'anglais commencera à devenir la langue de l'administration, mais pas imposée par la loi, plus par la pratique. 1830-31. Et ensuite, progressivement, comme les documents commencent à devenir de plus en plus en anglais maintenant, plutôt qu'en français, ça va gagner la rédaction des lois aussi, dans les années 1840, et ensuite, les cours de justice en 47. Et donc, c'est progressivement que c'est arrivé. Et les Français, donc les colons français, à partir de l'instant où les Britanniques vont commencer à angliciser la vie publique, vont commencer à résister. Et là démarre le premier conflit linguistique entre occupants administratifs, anglophones, anglophiles, et les colons qui, à partir de ce qui leur avait été garanti dans cet article 8, diront « on est en train de se jeter de nous ». Et là démarre la première guerre linguistique, entre parenthèses, entre Britanniques et Français. Et ça va durer pendant près d'un demi-siècle. Et quand les immigrants indiens débarqueront, après l'abolition, dans les années 1840, comme ils viennent aussi avec leur langue, il va y avoir d'autres positionnements. Les langues vont commencer à devenir marqueurs d'identité. Déjà, ça l'était anglais-français. La langue créole était déjà la langue des esclaves, des anciens esclaves, ne représentant aucun danger. Mais quand les langues indiennes débarquent, là, ils se posent des questions. Dans quelle langue va-t-on enseigner les enfants des immigrants indiens ? Donc, à un moment donné, les langues commencent à être associées à des gens. Et l'arrivée des immigrants indiens, selon qu'on soit tamoul, telugu, marathi, peut-être pas bhojpuri, pour la plupart, ça commence à devenir un élément d'identification. Et le créole va devenir, pour beaucoup d'immigrants indiens, une langue intermédiaire entre leur langue et le français, qui est la langue de ceux qui ont le pouvoir. Et comme le créole est aussi une langue qu'on utilise en ville et que la plupart des immigrants indiens, au début, habitent en région campagne, il va y avoir aussi ce phénomène de diglossie entre langue des villes et langue de la campagne, entre créole et bhojpuri. Et donc, quand on voudra aller en ville, il va falloir apprendre à parler créole. Et le créole va bénéficier d'une situation où, d'une langue honnie, méprisée par rapport aux autres langues de prestige, anglais, français, et même les langues de prestige indiennes, par rapport au bhojpuri, considéré comme la langue des villages, des campagnes, le créole devient une langue de prestige pour quand on va en ville ou alors quand on veut connaître une mobilité sociale associée à l'urbanisation. Alors qu'à un moment donné, la majorité des Mauriciens, pour les Bhojpuri, vu le nombre de ceux qui sont venus, au début, oui, mais après, très vite, avoir accès à la langue française, à la langue anglaise, et devenir des moyens de sortir de sa situation, de connaître la mobilité sociale. Et le créole était souvent un passage obligé pour aller vers. Et donc, le créole a connu, dans la logique diglossique, par rapport au Bhojpuri, des avantages qui ont fait que, assez rapidement, au moins d'un demi-siècle, la plupart des Mauriciens parlent le créole. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est devenu la langue nationale de facto. Il y a eu tous ces éléments, mais aussi par la proximité avec la langue française. C'était pas si compliqué quand on comprenait un peu le français de comprendre le créole. Et c'était pas trop compliqué quand on comprenait le créole d'apprendre des mots français. Et à un moment donné, la situation s'est mise en place d'elle-même. Pas forcément facteur d'ethnicisation, mais plutôt que facteur de mobilité sociale pour les deux langues européennes. Mais après, progressivement, par le biais de l'école, quand on va insister, beaucoup d'intellectuels, parmi Siu Sagaram Ghulam, pour que les langues indiennes soient également enseignées, ça va déboucher sur une autre forme d'ethnicisation, cette fois-ci par le biais de l'école. Parce qu'il va être assez rapidement compris que telle langue sera étudiée par telle personne dont les ancêtres sont venus d'une région où on parlait cette langue. Et ça continuera ainsi, sauf pour le groupe des enfants créoles qui, eux, n'ont pas de langues ancestrales, puisqu'ils sont issus d'un mélange de plein tellement de choses, et que le créole finira par devenir, par défaut, la langue d'identification des créoles. Et comme le nom de la langue correspond aussi au nom du groupe, ça sera facile de faire l'association. Même si dans les faits, cette association n'est pas aussi étroite qu'on le croit, puisque le créole est aussi la langue de tous les Mauriciens. Et donc, aujourd'hui, le créole est enseigné dans les écoles, aussi bien comme la langue identitaire d'un groupe qui n'en avait pas, mais aussi c'est la langue de tous les Mauriciens. Et le facteur le plus objectif, c'est le second facteur, c'est la langue de tous les Mauriciens. Et le système éducatif est confronté aujourd'hui à devoir enseigner dans le même créneau horaire des langues dites ancestrales, mais dans le même créneau, il y a une langue considérée comme ancestrale, mais qui est aussi la langue de tout le monde.
Langue d'un groupe, langue de tous. Ce paradoxe est au cœur de l'enseignement du créole dans les écoles mauriciennes. Arnaud Carpourant m'explique que lorsque l'enseignement du créole a été introduit dans les écoles, elle l'a été au même titre que les langues dites ancestrales. Le créole, qui est pourtant la langue de tous les Mauriciens, qui est notre langue nationale, est enseigné sur le même créneau horaire que le hindi, le mandarin, le tamoul, l'ourdou. Cela signifie que les élèves doivent choisir d'étudier une langue dite ancestrale, comprenons par là issu du pays d'origine d'un groupe, ou le créole, qui est dans les faits la langue de tous et qui est née sur le territoire mauricien. Cela participe à ethniciser encore davantage la langue créole. Daniela me raconte un incident à ce sujet qui, il me semble, est pertinent si l'on veut comprendre les problématiques identitaires qui découlent de cette situation.
À un moment, professeur Corpourant relève ça clair, qu'il disait que dans Maurice, langage créole, il y a à la fois ce qu'ils appellent un ethnonyme, ça veut dire qu'il désigne une ethnie, et il y a un glossonyme, ça veut dire qu'il désigne une langue. Quand nous pécoz créole mauricien, souvent nous avons dit que nous avons l'isis mauricien. Mais quand nous pécoz créole mauricien, nous pouvons faire référence symboliquement à langage qui est créole causé. Et qui s'en a créole dans Maurice? Un autre grand débat. Donc, quand créole mauricien rentre dans l'exercice scolaire, il n'a pas de nouveau la piste réflexion qui nous capable de gagner. Qui manière, en fait, nous ethnicise un langage à travers l'école? Mon vie partage des trois petites anecdotes autour de sa question identitaire là. Mon petit professeur dans MAI pour forme ban professeur primaire pour créole mauricien. En 2011, une forme premier batch qui amène pour l'entrée en 2012 dans l'école. Donc commence moi-même 2012 ou 2013, et là, un élève, une madame en fait, qui vient après classe, dit moi, est-ce qu'il m'a capable de causer ou? J'ai dit, ok. Il dit, moi, vous connaissez, me marie mal à l'aise, en fait. Me mal à l'aise parce que tous les élèves appellent moi Miss Créole. Ça, c'est quelque chose qui, première fois, me tendait là, hein, qui qu'un futur professeur soulève ça. Et moi, je me sentis moi mal à l'aise. Qui est capable de dire moi pour qui me sentis moi bien et qui me. En fait, moi, j'ai un problème, me sentis qui lui dérange. Lui pas dérange moi, mais lui disturbe moi, quoi. Qui ben, appelle moi Miss Créole, alors qui moi une musulmane, alors qui me porte le voile. Et surtout qui, dans la rue, me croise mon bande d'élèves dans la rue, dans Bazot, dans Spamossé, etc. Et je dis, ah, mamie, me bien présente-toi, mon Miss Créole. Et là, en fait, ça me permet, moi, à bord d'une question essentielle, à bord d'une future professeure en langue créole, parce que créole mauricien, il rentre dans l'école comme une langue ancestrale, nous bizarre pas oublier. Là, sa question identitaire, là, c'était une licence, une des meilleures licences qui m'ont capable de gagner dans un moment qui m'a typé travail de MAI, parce qu'il y avait une disrupte quelque chose qui est extrêmement sensible. C'était une occasion pour moi donne sa stand idéologique, donc, qui veut dire une langue maternelle. Au-delà, sur l'aspect administratif et politique, qui créole, il rentre dans l'école, même créneau aurait acquis ben, les autres langues, hindi, oudou, tamoul, marathi, etc. Mais donne une stand idéologique à sa ben, professeur qui n'est pas considéré par la société comme un créole. Alors, ce qui est un professeur, un lot langue ancestrale, l'hipou issu de comment dire, ce langue ancestrale pour hindi, pour oudou, pour tamoul, pour marathi, pour télégou. Et qui manière, en fait, nous donne l'importance à sa bande professeur créole mauricien là. Même si je t'appelle les autres Miss Créole, mais je n'ai pas senti les autres créoles. Ça, c'est un paradoxe, encore un paradoxe mauricien, mais l'extrêmement intéressant qui nous gagne l'occasion, tant par le professeur créole mauricien, d'autres par une propre réflexion et questionnement autour de ce qui nous appelle l'identité créole. Au moins, nous pouvons comprendre un peu le paradoxe-là.
Si Daniela exprime son désir ici de provoquer des échanges sur ce sujet avec les enseignants du créole mauricien, c'est parce qu'elle souhaite que nous dépassions ces problématiques identitaires. La langue charrie en elle des siècles d'histoire et d'humanité. Elle nous constitue, elle nous donne corps et vie. La langue est ce qui nous différencie des animaux. Elle nous permet de raisonner, de nous représenter le monde et donc de le regarder avec distance. Elle nous permet d'inventer, d'imaginer.
Zistoyev, Zako et Dimiel la reine. Un zoo dans un pays, ti ena en la reine qui ti bien bien ris. Mais laisse-moi dire zout en tis affaires avant nous continuer. Zo dit, quand nous dire en dimoun li en risor. Ça veut dire, li en a beaucoup beaucoup l'eau et closan. Mais dans sa pays là, li pati koum sa. Pour vin ris, ou ti bizan en a beaucoup 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 di miel. Abe, pa bizan di azot, mous di miel ki ti en a pli grand la rises dans sa pays là. Royaume là, entier ti pou zot. Depi le nos iska lesid, depi les iska lwes, depi la os iska en bas. Depi en bas jusqu'à en travers, zot même ti grand maître. Zot tiena sato, plantation, moulin canne, carodite, l'usine la louis. Jusqu'à réservoir d'îlot ti pou zot. Manque ti git, le a ki ou respire, tout vin pou zot. Et pas fini! Ou connaît qui ça n'a qui t'y pédirise tout ça là? En madame, s'il vous plaît, zot la reine. Il reste dans un grand château tout, hein? Soldat, soldat, extra ça. Zot pas zis gardien la reine, vous autres. Zot gardien se dimiel tout. Allô, pas besoin dire où. Enfin, pareil tout dit moun même. Tous animaux tout le temps apé travail bien bien dire pour zot arriver gain morceau di miel.
La langue a une diversité d'éléments, à commencer par son oralité, le dire, l'écoute, la compréhension, un niveau un peu plus élevé, la question de grammaire, etc. Tout y est, c'est le monde, c'est l'individu en entier, c'est l'intégralité de la personne humaine qui se construit à travers la langue.
Alain Mounian est membre fondateur de l'ONG Abin, qui travaille notamment avec les enfants vulnérables. Sa parole me touche parce que je la trouve très juste. C'est l'intégralité de la personne humaine qui se construit à travers la langue. C'est dire l'importance de la langue dans la construction de l'individu, en particulier dans l'enfance. Au sujet de la langue créole, nous pouvons lire ceci sur le site internet d'Abin. Abin est connu pour son engagement en faveur de la langue créole. La décision d'inscrire cette question parmi nos premières priorités relève du droit universel à l'expression. Il s'agit aussi du respect de l'identité née du plus profond de notre histoire. Abin est convaincu que le droit de s'exprimer dans sa langue maternelle rend les apprentissages plus efficaces, que c'est un outil pédagogique culturel. Au niveau du développement émotionnel, la langue maternelle instaure une stabilité qui permet à chacun et chacune de rester authentique avec ce qu'il ou elle est et avec son environnement. J'avais envie que l'on entende la parole d'Alain, parce qu'il me semble que la manière dont est envisagé aujourd'hui l'enseignement du créole dans les écoles ne va pas encore de pair avec cette question de droit, et le travail d'Abin pour mettre cette langue au cœur des apprentissages est fondamental.
Le thème central autour de la langue relève de l'expression. Alors, il faut dire que pour une organisation qui a une histoire avec la perspective de droit, c'est quelque chose de naturel, ça devient naturel, parce qu'on est né dans le respect des droits. Et le respect des droits des enfants, pour nous, c'est crucial, c'est quelque chose de central dans notre action. Et comment faire pour que l'enfant puisse jouir de ses droits ? Ces droits ne se résument pas à avoir à manger, un toit ou aller à l'école. Ce droit, pour qu'il soit pleinement réalisé et réalisable, doit essentiellement s'articuler autour de l'expression. Et cette expression, malheureusement à Maurice, elle a été et est toujours dans une grande mesure brimée par la politique de langue que nous avons eue ici. La langue, nous avons une histoire pénible de la langue à Maurice, à commencer par le génocide linguistique. Il ne nous reste aucune langue d'origine africaine ou malgache à Maurice. C'est dramatique, mais le bon côté dans tout cela, c'est que la nature humaine nous a permis d'inventer une nouvelle langue.
Inventer une nouvelle langue. Une nouvelle langue née du mélange, de l'interaction entre toutes les langues ancestrales et qui porte en elle notre histoire. Une histoire commune, une langue de la résistance, mais aussi une langue pont. Une langue pourtant restée reléguée au bas de l'échelle dans la hiérarchie des langues à Maurice, en dépit de l'importance qu'elle a dans les apprentissages pour les enfants mauriciens. Cette hiérarchie entre les langues, ce contexte de diglossie, brime non seulement l'expression, mais a également un impact dans l'accès des Mauriciens à leurs droits de citoyens. Cette hiérarchie est une fois de plus un héritage colonial, que nous prolongeons à travers une politique de langue qui continue de privilégier les langues considérées hautes au détriment de la langue maternelle de la très grande majorité des Mauriciens, et qui participe donc à perpétuer les inégalités. Il m'a semblé nécessaire de terminer par cette question des droits, parce que si nous abordons la question de l'ethnicisation et de la hiérarchisation des langues, c'est bien parce que cette situation crée un déséquilibre qui nuit à la cohésion sociale et à l'avancée vers une société plus juste et plus égalitaire. Cette émission a été produite par l'Époque Studio avec le soutien financier de l'ambassade de France. Elle est présentée et réalisée par Christelle Mervin de Spéville, avec la participation de l'anthropologue Daniela Bastien. Montage et mixage, Prodcom. Productrice exécutive, Shakti Kalikan. Communication, Alia Chojou. Le générique de l'émission a été réalisé par le groupe Patiatan. Merci à Arnaud Carpouran, Daniela Bastien, Alain Mounian, Doriane Letourdi et Chloé Edouard pour leurs témoignages et éclairages. Vous avez entendu les morceaux suivants. Langage créole de Daniela Bastien, une version accompagnée à la ravane d'un texte que vous pouvez retrouver dans son album Ici là-bas. Ale Jojo, plus Dalpita Mangela, du groupe Abin. Un extrait de Yev, Zako et Dimiel Larenne, tiré du livre CD d'Abin, Tisan os aux huit frères. Un ensemble de contes mauriciens racontés par Alain Mounian. Cette émission a été nourrie par d'autres voix que vous n'avez pas entendues, mais qui ont toutes apporté un éclairage pertinent sur le sujet des langues. Un immense merci à Ariana Zifra et Michel Ducasse pour le temps qu'ils m'ont accordé à l'occasion d'un entretien. Merci à Kim Iptong, Anikina, Elisa Piat et Jawad Issoup pour leurs témoignages envoyés par les réseaux sociaux. Merci de votre écoute et à bientôt pour un prochain épisode de Canne à sucre et préjugés.